Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.
Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à Ariane Bois pour un beau livre, « Ce pays qu'on appelle vivre », publié chez Plon, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors tout d'abord, sous l'égide du Mémorial de la Shoah, se tiendra la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, en partenariat bien sûr avec l'UNESCO, et ce le 26 janvier à 18h au siège de l'UNESCO, avec la participation d'Audrey Azoulay, Eric de Rothschild, le violoniste Robert Davidovici, du mezzo-soprano Sofia Falkovic, et enfin avec l'apport du témoignage d'Isabelle Choco, présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz. Alors une inscription se fait sur le site de l'UNESCO. Le même jour, sous l'égide de l'Association des Amis de Milo Adonair, du grand rabbin Olivier Kaufmann, du président Patrick Chlevicky et du comité de la synagogue de la place des Vosges, en présence du grand rabbin de Paris, du président du consistoire de Paris, se tiendra le jeudi 26 janvier à 19h le 78e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz, et ce 14 place des Vosges. Le 2 février à 19h30 à l'auditorium du Mémorial de la Shoah, Ariane Bois, ici présente, et François Elbron, son époux, viendront présenter leurs ouvrages respectifs, Ce pays qu'on appelle vivre, publié chez Plon, et Deux étés 1944, publié chez Stock. Et cette avant-première sera animée par Eduardo Castillo, agrémentée de lecture d'extraits par Gilles Cohen, comédien. Un téléphone pour toute réservation, 01 42 77 44 72. Enfin, sachez que chaque année, le Mémorial de la Shoah organise des visites d'une journée sur le site d'Auschwitz-Birkenau, où 1 million de Juifs furent assassinés. Ces voyages, destinés à tous, sont encadrés par des historiens accompagnateurs du Mémorial de la Shoah, et la prochaine journée se tiendra donc le 19 mars prochain. Donc un numéro de téléphone pour des informations et surtout des inscriptions, il faut joindre Wendy Chando au 01 53 01 17 99. Voilà, je reviens à Ariane Bois, donc c'est avec un immense plaisir que je reçois Ariane Bois, alors je rappelle, romancière, grand reporter et critique littéraire, qui nous vient avec un ouvrage d'une grande force, un véritable bijou d'histoire avec un grand H, sur fond de réel et de fiction qui nous va droit au cœur. Dans la mesure où l'auteur, eux, à l'aide d'une plume juste et vraie, montre avec éclat que l'amour peut triompher de l'oppression et de la mort. Alors cet ouvrage dont je parle s'appelle « Ce pays qu'on appelle vivre », il est publié chez Plon et fait suite à de nombreux ouvrages récompensés par autant de prix littéraires. Je voudrais citer « Gardien de nos frères » chez Belfond, « Dakota Song » chez Belfond également, « L'île aux enfants »,« L'amour au temps des éléphants » et « Éteindre le soleil » paru chez Plon en 2022. Alors, avec ce pays qu'on appelle vivre, nous allons le voir, nous suivons le parcours de Léo Stein, que je vous laisse découvrir, et il faut savoir que nous sommes plongés dans la tourmente et la promiscuité au cœur du camp des Mille, près d'Aix-en-Provence, où sont incarcérés près d'un millier d'étrangers indésirables, dont nombre de figures célèbres, qui au sein de cette prison de briques réussiront à transcender le désespoir en création salvatrice. Donc, je le dis, voilà un grand texte nourri par une écriture haletante au plus près des vécus humains les plus attachants. Et je persiste et signe ce soir en déclarant que je suis un fan des ouvrages d'Ariane Bois, moi qui, je l'avoue, ne suis pas particulièrement amateur de romans. Alors, il ne fait aucun doute que cet ouvrage sera récompensé par un ou des prix littéraires. En tout cas, je me tourne vers toi, Ariane, que je continue à tutoyer ce soir, pour te remercier d'avoir réservé peut-être notre premier entretien, j'en suis pas sûr, à Radio Shalom, dans notre émission Mémoire et Vigilance. Alors, avant toute chose, avant de parler de ce beau texte, Revenons un petit peu à l'actualité la plus fraîche. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, eh bien, tu t'es porté à la rencontre du camp des Mille et je crois que tu as emmené un certain nombre de journalistes là-bas. Comment ça s'est passé?
Oui, merci d'abord, Claude, pour cette magnifique introduction et ton enthousiasme qui fait vraiment chaud au cœur dans ces journées un peu froides. Oui, le livre vient juste de sortir et j'ai eu la chance de pouvoir emmener des journalistes parisiens, de rencontrer des journalistes de Provence et nous sommes allés tous ensemble au camp des Mille. Alors, pour la majorité des gens, personne n'avait visité un camp jusque-là. Et donc, au début, on part tôt, on est un peu fatigué, on se dit qu'est-ce qu'on va faire là. Et puis, quand on découvre ce camp, qui est le seul grand camp d'internement et de concentration encore intact en France, dans la zone libre, c'est l'effroi qui nous saisit. C'est aussi l'admiration devant les fresques, devant les graffitis, devant tout ce qui a été créé. Et on a passé une journée absolument incroyable, riche en émotions. Et vous savez, quand on est rentré à Paris dans le train, plus personne ne parlait. Et je crois que c'était vraiment l'émotion qui avait gagné tout le monde. Et j'ai été vraiment remerciée parce que emmener des gens dans un endroit qu'ils ne connaissent pas et qu'ils en sortent absolument changés, c'est une grande joie.
Oui, alors tu viens de le dire, c'est-à-dire que la structure est encore en place, il faut rappeler que c'est une briqueterie. L'atmosphère, on la ressent, parce qu'on pénètre à l'intérieur, et puis il y a le site, et en vérité, c'est tout de suite perméable aux visiteurs.
Oui, le camp était une ancienne usine de tuiles qui avait été créée en 1898, qui a fermé en 1938 et qui a été réquisitionnée en 1939 pour y loger d'abord ce qu'on considérait comme des ennemis, c'est-à-dire des Allemands et des Autrichiens juifs pour la plupart, et qui avait dû quitter l'Allemagne à cause du régime nazi. Et puis ensuite, tous les indésirables, des artistes dissidents, des brigadistes, des brigades internationales qui étaient réfugiés dans la région. Et tous ceux qu'on a pu emmener.
En particulier à Sanary, c'est ce que tu mets en scène dans le roman.
Mais oui, Sanary, c'est magnifique. Voilà. On disait que c'était Montparnasse sur la Côte d'Azur, parce qu'il y avait tellement d'Allemands et tellement d'Autrichiens. Il y a Bertolt Brecht, il y a Thomas Mann, il y a environ 450 à 500 réfugiés étrangers. Alors au début, on les considère dans les années 35-36 comme des touristes. Après, les rumeurs de guerre se précisent. On commence un petit peu à les trouver suspects. Et à partir de 1939, on les considère comme des ennemis. Oui. Et donc la Troisième République vieillissante va les interner dans cette ancienne brigaderie.
On peut véritablement parler d'une trahison absolue. Alors revenons un petit peu, parce que je dirais que c'est toujours important de revenir un petit peu sur l'histoire.
Tout à fait.
Il y a le camp des Mille, mais tu viens de l'expliquer en partie. Qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'il y ait cette création du camp des Mille? Et au fond, revenons un petit peu à le contexte de la période.
Alors, on est en septembre 1939, la guerre a été déclarée, la Troisième République s'inquiète. Qui sont ces gens, ces Allemands, ces Autrichiens? Est-ce que ce sont des espions? Est-ce que c'est la cinquième colonne? On n'en sait rien. Alors, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire avec eux, mais dans le doute, on les interne. Donc, des gendarmes français viennent, sonnent à toutes les portes et on leur dit de prendre une valise et de se rendre dans ce camp. Après, un petit peu plus tard, on va penser que ces gens doivent émigrer. Donc, on va faire du camp des Mille un camp d'émigration, de transit. Et donc, c'est unique en France. On va pouvoir sortir du camp. On a des permissions pour se rendre à Marseille. Et on a intérêt à revenir parce que sinon, les gendarmes viennent vous chercher et vous recherchent. Et de toute façon, les détenus
pour faire les démarches administratives.
Donc on part à Marseille pour faire les démarches administratives.
Faire la queue devant les consulats, etc.
Donc en fait, le camp va avoir plusieurs fonctions. Lutter contre les ennemis en les gardant sous la poche. Oui. Ensuite, les indésirables de tous bords. Et puis finalement, en fait, un endroit de transit. Et puis malheureusement, à l'été 42, alors que les Allemands ne les réclamaient pas, les déportations vont se mettre en marche. Donc le camp a été, de 1940 à 1942, un endroit où plus de 10 000 personnes de 38 nationalités ont vécu, ou plutôt ont survécu.
Dans des conditions qui sont vraiment très difficiles et épouvantables. Alors, Donc, il y a le contexte. Et en même temps, alors, on revient un petit peu sur l'un des héros, on peut dire, peut-être le héros principal de cet ouvrage. C'est Leonard Stein, donc le fameux Léo, qui, lui, est réfugié donc, sur la Côte d'Azur, on l'a dit. Et en fait, ce qui le caractérise, c'est que c'est un combattant de la guerre civile espagnole. Et donc, c'est un brave. Il va être arrêté par les gendarmes français, envoyé aux milles. Et en fait, eh bien, là, à ce moment-là, on entre dans l'histoire avec lui parce qu'autour de lui, eh bien, évidemment, il y a des compagnons de combat qu'il va retrouver, en particulier des Espagnols. Et puis, il y a, je dirais, cette promiscuité avec les nationalités dont tu parles. Mais la réussite du livre, à mon sens, c'est que l'écriture est tellement, je dirais, près de l'humain que véritablement, tu nous prends par la main pour, en fait, nous entraîner au cœur de l'enfer, quoi. C'est ça qui est incroyable.
C'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas.
Parce qu'on y est, quoi. Et j'ai presque envie de dire qu'on ressent les odeurs. Et puis c'est, il faut savoir que, en fait, on est dans l'obscurité. Parce que, bon, il y a un contraste important que tu montres très bien, quoi, qui est suggéré. C'est qu'au dehors, il y a cette belle lumière de la Côte d'Azur.
Mais oui, c'est ça.
Et puis à l'intérieur, c'est la nuit, opaque, c'est la nuit nauséabonde aussi, parce que tous ces hommes sont les uns sur les autres.
Bien sûr, il fait froid, c'est glacial en hiver, le Mistral s'engouffre oui. dans l'usine, il fait une chaleur de bête en été, il y a 4 latrines pour oui. des milliers de personnes, on oui. imagine sans dommage l'odeur oui. et les dégâts. Parfois on a faim, on ne mange pas forcément à sa faim, et puis c'est la promiscuité, c'est le désœuvrement, et c'est surtout l'inquiétude. Oui. L'article 19 de l'armistice stipule que la France doit donner ses oui. ressortissants allemands si oui. l'Allemagne le désire. Donc tous ces juifs et tous ces étrangers s'inquiètent à juste titre en se disant « mais qu'est-ce qui va arriver de nous ?» oui. Et c'est là que l'épisode du train, au début, en mai 40...
Ça, on va le rappeler, on marque une petite pause dans l'émission Mémoire Vigilance. Retour dans l'émission Mémoire Vigilance en compagnie d'Ariane Bois pour son beau livre « Ce pays qu'on appelle vivre » publié chez Plon. Alors justement, l'épisode du train, eh bien, il faut revenir un petit peu dessus.
Oui, c'est assez incroyable quand on y pense. Le commandant du camp, le commandant Goruchon, oui. qui était un ancien chapelier, oui. subit une énorme pression de la part des détenus qui disent « mais les Allemands vont arriver oui. et nous sommes des victimes, ce sont nos ennemis, nous sommes des anti-nazis, nous sommes des juifs pour la plupart, nous sommes socialistes, communistes, de gauche, et donc ils vont vraiment nous massacrer ou nous envoyer à Dachau. » Et il y a quelques jours qui se passent comme ça dans une effervescence, et puis le commandant commande un train pour que 2000 personnes oui. partent oui. en sécurité. Simplement, les choses ne vont pas se passer comme elles doivent se passer. C'est l'exode, tout est désorganisé, le train arrive jusqu'à oui. Bayonne, et à Bayonne, il y a un quiproquo, on dit les Allemands arrivent, et donc alors que les Allemands, c'est eux. Et eux, ils comprennent que c'est oui. les nazis qui arrivent. Et donc, ils rebroussent chemin. Et donc, ça oui. va être la seule tentative d'évasion collective, je dirais, du camp des Milles, qui a été d'ailleurs un très beau film
oui,
avec Jean-Pierre Mariel.
Oui, oui, oui.
Voilà. Mais qui s'est arrêté très tôt, puisqu'on est vraiment au printemps 40.
Oui, il faut le rappeler. Alors, donc, bon, malheureusement, il y a un échec. Hein, bon, et ils se retrouvent donc à nouveau dans le camp des Milles. Et là, en fait, ce que tu mets en scène, c'est, je dirais, le quotidien où, en réalité, on sent que ces hommes vont tenir grâce, je dirais, à la solidarité inhérente, je dirais, à cet enfermement. Puis, en même temps, je l'ai rappelé, tu le rappelles dans l'ouvrage, c'est que ce sont aussi des compagnons de combat, hein, notamment Léo avec ses amis.
Ils ont connu le pire, certains ont connu Dachau.
Voilà. Alors, effectivement, on peut dire qu'ils se tiennent au chaud d'une certaine manière sur le plan de l'amitié, de la solidarité. Mais ce qui va aussi, et ça tu le montres bien, et c'est ce qui fait la caractéristique du camp des Milles, c'est que ce malheur-là va être en quelque sorte sublimé, comme on dit, au profit d'une activité artistique qui aujourd'hui est encore éblouissante.
C'est éblouissant.
Voilà.
Hein? C'est vraiment le mot, Claude, c'est oui. éblouissant. 400 œuvres pictorales ont vu le jour au camp des Milles. Il oui. y a des noms internationalement connus, hein, comme Hans Bellmer, ouais, Max Ernst, les pères du surréalisme. Il y a Franz Meyer qui était un caricaturiste dont je me suis inspirée pour mon héros,
c'est
Léo
ça,
Stein.
Léo. Oui.
Voilà, Max
oui.
Linger, Ferdinand Springer. Il y a l'écrivain Léon Feuchtwanger qui a écrit Le Juif Sus, qui a été dénaturé par les nazis.
Oui.
Donc, tous ces gens-là veulent lutter contre le désœuvrement et vont créer. Alors, il va y avoir du théâtre, il va y avoir des conférences, il va y avoir des peintures et puis des fresques que l'on peut voir aujourd'hui et qui sont tellement émouvantes parce que à la lumière d'une bougie, dans le noir le plus absolu, avec des moyens de fortune, avec du bleu qui venait de la lessive qu'on voulait bien leur donner pour laver leurs affaires, eh bien, ils réussissent à créer des œuvres qui sont lumineuses,
c'est
pleines de gaieté et surtout pleines d'espoir pour un avenir meilleur.
C'est ça. Alors, effectivement, ce que tu montres bien, c'est qu'au fond, ça les sauve, quoi. Ça les sauve moralement, d'une certaine manière, pour la plupart. Et alors, il y a des personnages alors, qu'on connaissait, évidemment, à travers l'histoire. Alors, je voudrais rappeler quand même, parce que c'est important, si le livre, me semble, réussit à ce point, c'est que précisément, je dirais que tu as cette touche de l'historienne, parce que tu as aussi un passé sur le plan historique, dans la mesure où tu as fait une formation d'historienne. Et que si on ajoute à ça l'imaginaire, je dirais, qui va constituer la fiction, ça donne quelque chose de réussi, parce que, en fait, tu adaptes bien les fragments du réel avec la mise en scène de l'imaginaire qui fait que tout ce monde se remet à vivre. Et à l'intérieur de ça, je voudrais préciser une chose, c'est qu'on connaissait par exemple la caractéristique de cette belle attitude, de ce bon comportement, qui était celui du journaliste américain Varian Fry.
Ah, Varian Fry.
Et là, tu lui redonnes de la chair, parce que en fait, on s'aperçoit au bout d'un moment, parce que bon, on le voit dans le roman, Léo, eh bien, en fait, va être mis en contact grâce à Margot, qui est cette femme avec laquelle il va entrer vraiment en relation amoureuse. Et en fait, on s'aperçoit que grâce au portrait que tu en fais, cet homme-là, eh bien, tu lui donnes de la chair. Et d'une certaine manière, je dirais que c'est en quelque sorte l'honneur de l'humanité au cœur de ce qu'on pourrait appeler le monstre, comme tu le décris dans l'ouvrage.
C'est tout
le
à fait monstre, ça. Voilà. Varian Fry, c'est un personnage extraordinaire. Et quand j'ai croisé sa route, je me suis dit qu'il ne pouvait que figurer dans le livre. Moi, j'aime bien faire ça dans un roman. J'aime mélanger les vrais personnages, les personnages de fiction, la petite histoire, la grande histoire. Je trouve qu'on en apprend beaucoup. Varian Fry, c'est le premier juste américain. Il arrive à Marseille avec $2000 dans sa poche et une liste de personnalités à sauver. L'Amérique ne veut pas de juifs, l'Amérique ne veut pas de socialistes, mais elle est intéressée par les Matisse, elle est intéressée par Chagall, elle est intéressée par Anna Arendt, et il va s'employer à sauver de manière légale et illégale.
Les grandes figures artistiques déjà connues, c'est ça qui les intéresse.
Voilà, et Varian Fry est un très très beau personnage, et quand Léo va le rencontrer, l'espoir va renaître, parce qu'il se dit, mais peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Et donc, dans cette course au papier, dans cette course au visa, Varian Fry va être une étape de plus vers une liberté.
C'est ça. Mais alors, ce personnage-là de Varian Fry, on revient à lui. En vérité, je dirais que tu te portes aussi à sa rencontre sur le plan historique. Le portrait que tu en fais, on le voit vivre. Tu t'es informé aussi.
Ah oui, j'ai lu sa biographie, j'ai regardé les photos, j'ai vraiment travaillé sur ce qu'il avait fait. Il est mort vraiment longtemps après la guerre. Il a eu le temps d'écrire. Il a été un des premiers États-Unis à alerter sur la Shoah.
Oui.
Il s'était rendu à Berlin en 1933, ce qui n'est pas tout à fait courant pour un Américain. Et il avait vu de près la brutalité nazie. Donc, c'est injuste, francophile, journaliste, le cœur sur la main. Et s'il est connu un peu en Provence et dans la ville de Marseille, il l'est peut-être un peu moins ici.
Mais dans les livres d'histoire, déjà, son nom est là. Hein.
Oui, heureusement.
Bien
heureusement,
sûr.
Et il mériterait un film. Voilà.
Mais bien sûr, il mériterait un film, tout à fait. Et peut-être même, effectivement, alors, je fais appel à toi, peut-être, cette fois-ci, un récit, un roman autour de lui. Parce qu'en même temps, il va lui arriver quelque chose d'incroyable, c'est qu'au fond, on s'aperçoit qu'il aide beaucoup les persécutés, et puis, finalement, les États-Unis vont, vont le lâcher et puis bon, il va rentrer. Et du reste, il y a une belle scène. Il y a une belle scène dans le livre. C'est que, bon, il est obligé de laisser sa charge.
Hein. Ah, il est arrêté par la police de Vichy, voilà, et il est expulsé. Il est expulsé, obligé de quitter la France.
Et là, il y a bon, tous ceux à qui il a fait du bien autour de lui, qui, on sent qu'effectivement, il y a une grande peine quoi, de le voir partir. Quoi. D'autant que, alors, il y a un personnage, alors, je te dis la vérité, moi, je suis tombé aussi amoureux de Margot.
J'espère, bah, oui. C'était le but.
Parce que c'est vrai qu'elle est tellement près d'autrui. Et puis, il y a une telle élégance chez cette femme. Alors, grâce à Margot, alors, bon, il faut laisser aussi le lecteur...
Bien sûr, découvrir le roman.
Il y a cette belle idylle qui va se tisser entre Léo... qui est aussi alors un artiste plutôt alors pour persévérer je dirais dans la survie au sein du monstre hein. Le monstre c'est l'Émile qu'on qualifie comme ça, on peut dire qu'il fait des caricatures, c'est un dessinateur avant tout hein.
Oui, et alors que son père est libraire.
Est-ce que son père est libraire, oui.
À Mannheim, en Allemagne.
C'est ça.
Et donc, lui, il a évidemment vécu toute son enfance et sa jeunesse dans les livres. Mais lui, ce qu'il aime, c'est dessiner. Et dessiner, créer des personnages, reproduire, faire des caricatures, c'est son moyen de résister. C'est vraiment la création pour survivre, la création pour ne pas se laisser couler.
Oui, alors justement, ce qui est suggéré... le talent de Léo, ce qui est suggéré, c'est qu'au fond, ce n'est pas, je dirais, une restitution, une simple restitution du monde environnant. C'est qu'en en fait, il fait voir.
Comme les bons caricaturistes.
Comme les bons caricaturistes, c'est ça. Il met en relief, justement, ce qui passe un peu inaperçu, je dirais, pour
il
un
sera,
regard commun.
Il sera renvoyé et envoyé à Dachau. À cause de ces caricatures.
Voilà,
et
voilà.
Donc, c'est là où le livre est aussi assez contemporain, voilà. puisqu'on sait exactement où voilà. les caricatures
alors,
mènent.
Une réflexion plus générale maintenant, hein, qui me vient comme ça, c'est qu'au fond, effectivement, il y a cette réussite entre les fragments de réel et la part de l'imaginaire. Et à mon sens, c'est peut-être ça qui fait véritablement office de vecteur de mémoire. Parce qu'en fait, il y a de l'émotion pour le lecteur, on est happé par le texte. Et donc, en fait, cette histoire, on l'intègre. Maintenant, ma question, je te la pose frontalement. Est-ce que dans le monde des historiens pur jus, est-ce qu'on accepte en général ce mélange entre histoire et imaginaire ?
Alors, ça dépend oui. des historiens, mais ils sont parfois un peu interloqués par oui. le traitement et en même temps étonnés parce que tout est vrai.
Voilà.
Donc, j'ai fait relire le texte par deux historiens, un historien spécialiste de la Provence et un historien spécialiste de Marseille. Donc, vraiment, je ne voulais absolument aucune erreur, aucune faute sur les noms, sur les dates, sur les chiffres. Tout doit être absolument véridique.
Oui.
Mais oui, peut-être que certains aimeraient écrire des romans, mais ils sont dans leur discipline. L'histoire, moi, je volette d'un événement à l'autre, mais je fais toujours très attention à la véracité des faits.
C'est ça.
Et donc, peut-être que certains, oui, sont un peu étonnés, mais j'ai eu beaucoup de bienveillance autour de moi.
Non, mais parce que, bon... Si c'était médiocre, bon, on pourrait dire ouais, vraiment, bon. Mais quand l'écriture, c'est une écriture qui se tient et en même temps qui est talentueuse, je dirais que c'est perméable à ce moment-là au lecteur. Et c'est ça la réussite.
Moi, ce que j'aime, c'est vraiment emmener, vous l'avez dit, Claude, emmener le lecteur par la main, c'est-à-dire que je voulais qu'il rentre avec moi dans le camp d'Émile, qu'il essaye de ressentir ce que l'on peut éprouver quand on est privé de liberté comme ces gens l'ont été, et puis essayer de voir des actes justes, essayer de voir l'humanité, essayer de percevoir une certaine espérance. Et donc, c'est pour ça que Margot, mon personnage, vous l'avez rappelé, est solaire.
Oui, elle est solaire. Alors, en même temps, la réussite, si je continue dans cette veine, c'est le fait que, bon, les personnages vont prendre de la chair, je l'ai dit, mais en même temps, je dirais, il faut faire le between entre les éléments masculins et féminins. C'est-à-dire, autrement dit, pour le dire clairement, rentrer dans la peau des personnages dont la plupart sont des hommes.
Oui, bien entendu, il n'y a que des hommes au camp des mines jusqu'à l'été 42.
À part évidemment Margot et puis peut-être sa mère et d'autres femmes autour d'elle. Dans la création de l'écriture, je dirais, ce cheminement pour arriver à prendre le ton juste, pour parler, je dirais, et vivre à l'instar des hommes, comment ça se fait?
Ben, je crois que moi, je travaille beaucoup à partir de photos. Donc, je me suis rendue beaucoup aux milles. J'ai beaucoup photographié et surtout j'ai regardé les visages des déportés, des détenus. Et donc j'ai essayé. Je travaille un peu comme un photographe avec un composite de plusieurs visages.
C'est ça.
Et quand j'ai trouvé, par exemple, le visage de Margot, j'ai regardé les photos de Man Ray. Et j'ai vu une photo, les années 30, les yeux mutins, la peau. Voilà, et je me suis façonné une idée de mon personnage. Et une fois que je l'ai, ce personnage, ben, il ne me reste plus qu'à l'accompagner, en fait. Et parfois, il court tellement vite que j'ai du mal à le rattraper.
Voilà, oui. Mais alors, en même temps, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, bon, les personnages sont mis en scène. Bon, il y a un cadre. Bon, on ne peut pas sortir du cadre.
Oui, on est dans une unité des lieux.
Exactement. Mais en même temps, j'ai envie de te demander, c'est le secret aussi, c'est que dans l'écriture, en fait, c'est pas maîtrisable complètement. C'est-à-dire que le personnage, tu viens de le dire, tu le laisses courir et, d'une certaine manière, tu peux devenir témoin toi-même d'une histoire à laquelle tu ne t'attendais pas.
Oui, c'est exactement ça. Ça arrive très souvent.
Ben voilà.
Ça arrive très
souvent. Par exemple, l'histoire d'amour. Revenons à l'histoire d'amour. Qui donne du piment, il faut le dire.
Donc Léo rencontre Margot au comité d'accueil aux réfugiés.
Comment tu l'imagines, ça ? Au sein de l'écriture, qui fait qu'à un certain moment, en réalité, est-ce qu'il y a une nécessité, précisément, de donner de la lumière, je dirais, à ce récit, pour faire intervenir cette histoire d'amour entre les deux êtres?
Oui, je crois que Margot, elle représente la beauté, elle représente l'amour et l'espoir. Elle va ouvrir les portes à Léo, donc il fallait introduire de la douceur dans le récit, dans cet univers carcéral, dur, noir, obscur, on l'a dit. Elle représente une certaine lumière. Elle est dans le don de soi, elle est dans l'altruisme, elle aide les femmes et les enfants qui sont assignés à résidence à Marseille.
Elle est monitrice, il faut le dire.
Enfin, voilà, elle est juive, elle est française. Et elle est surtout marseillaise. Elle se sent beaucoup plus marseillaise qu'autre chose. Ses parents sont des juifs hongrois qui ont quitté la Hongrie, qui ont émigré. Donc elle est dans toutes ces composantes. Elle est à la fois française, marseillaise, juive, d'origine étrangère par ses parents. Et donc elle va représenter le monde finalement pour Léo. Et elle, en le tenant par la main, elle va représenter surtout l'espoir de la liberté. C'est aussi une combattante et c'est aussi une femme généreuse. Elle va aller jusqu'au don de soi au camp des mille.
Alors, on laisse bien entendu au lecteur le soin de découvrir, mais il va lui arriver quand même quelque chose de très douloureux. Et j'avoue franchement, j'ai été vraiment ému quand on voit que ses parents qu'elle aime tant vont être emmenés... évidemment,
ce sont des scènes très difficiles à écrire.
Je me doute que, et je te regarde bien, je pense que, bon, pour écrire un peu moi-même, il y a un moment où effectivement on est aussi dépassé et j'imagine que des larmes coulaient au moment où tu écrivais.
Sur cette scène-là,
je me trompe ou pas?
Pas du tout. J'ai beaucoup pleuré, en particulier sur les enfants, parce que moi, les enfants, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur.
Là, il y a des scènes absolument incroyables.
Des scènes de séparation.
Des scènes de séparation que tu as décrites tellement bien, où on voit ces mères qui, la mort dans l'âme pour certaines, se sentent obligées de laisser leurs enfants.
Elles vont le faire pour les sauver, puisque 70 enfants du camp des mille seront envoyés vers les États-Unis. Elles savent qu'elles vont les sauver comme ça, mais cette scène est comme la nuit de Vénitieux, absolument tragique.
C'est ça. Et là, vraiment, on est bouleversé. Alors, il faut aussi saluer, évidemment, le pasteur Henri Manem, qui est né en 1900 et qui, malheureusement, décède en 1975, et sa femme, Alice, qui ont d'abord réussi à faire sortir quelques enfants, mais où il est aussi témoin de l'arrachement des mères. Et en fait, il fait tout ce qu'il peut, le malheureux.
Le pasteur et sa femme ont été formidables. Ce sont des justes.
C'est ça.
Ce sont les justes du camp des Milles avec le gardien Auguste Boyer.
Oui.
Ils ont réussi à baptiser, entre guillemets, certains enfants, à faire évader quelques détenus en les envoyant, soi-disant, suivre une formation à Marseille. Et ils se sont démenés. On a le journal du pasteur. Et le journal du pasteur raconte la nuit de séparation, la nuit d'horreur quand les enfants s'en vont et que les mères savent qu'elles ne les reverront plus jamais. Et il a vraiment lutté de toute son âme. Vous savez, vous vous rappelez peut-être que j'ai des racines protestantes paternelles importantes et que dans ma famille paternelle, on est pasteur. Et donc, j'ai vraiment aimé rendre hommage à ce pasteur et à sa femme qui ont tout fait pour que l'humanité ne périsse pas dans ce camp et qui ont réussi à sauver quelques personnes.
Oui, oui. Alors, bon, revenons un petit peu aux démarches qui sont faites par Léo. Là encore, je dirais, il nous entraîne avec lui dans ce méandre terrible parce qu'en fait, à un moment, bon, il y a un espoir pour lui de sortir du camp et de rallier, je crois que c'est le Venezuela à ce moment-là.
Oui, il essaye à peu près à toutes
les portes. Mais malheureusement, ça se passe mal. Et puis, grâce à Margot, enfin, bon, je dirais, celle avec qui on va se tisser, comme je l'ai dit, une idylle, finalement, il obtiendra gain de cause, mais un départ pour Cuba. Mais malheureusement, son propre père, arrive au camp. Et en fait, dans un état de vulnérabilité extrême, il va pratiquement assister à l'agonie de son père. Et alors qu'il pouvait se rendre donc sur le quai pour partir en direction de Cuba, où l'attendait Margot, qui avait fait, elle, toutes les démarches aussi, malheureusement, à ce moment-là, il est obligé de rester jusqu'au bout pour rester au chevet de son père. Et il loupe le coche. Il loupe le coche à ce moment-là.
Parce que beaucoup de juifs de la région de Bade-Wurtemberg ont été déportés au camp de Gurs, puis envoyés au camp d'Emile. Et donc, c'était aussi montré que d'autres personnes sont arrivées au camp après 1940. Nous sommes donc en 1941. Et c'est vrai que toutes les portes se ferment les unes après les autres pour Léo. Il y a Cuba, il y a le Mexique, il y a le Venezuela. Il y a une piste aussi lointaine que Shanghai. On parle
le
du
Mexique aussi.
On parle du Maroc, on parle de la Martinique. Oui. Mais il faut savoir que 4 requêtes sur 5 échouent, en fait. Et donc, le temps d'obtenir le visa, votre visa de transit est déjà périmé. Il faut montrer que vous avez assez d'argent pour vous établir au pays. Il faut montrer que vous avez un métier. Il faut obtenir une autorisation de sortie du camp. Bref, tout ça est très compliqué. La bureaucratie et l'administration française met vraiment le plus de problèmes
bien
dans
sûr,
les pattes des détenus
bien sûr.
Et très peu réussissent.
Oui. Et là, ce que l'on voit et ce qui est bien réussi, c'est la mise en scène, effectivement, du désespoir qui va étreindre ces hommes, en particulier l'un des amis proches de Léo, je laisse encore une fois découvrir, mais qui malheureusement va aller jusqu'au bout d'une dépression.
Bien entendu, parce que Marseille est une ville complètement assiégée par les réfugiés. On fait la queue pendant des heures au consulat, aux ambassades. On est promené d'un endroit à un autre. Et puis finalement, l'argent disparaît, fond, et on se rend compte que la nasse est en train de se resserrer. Donc le désespoir peut évidemment frapper certains détenus.
Alors, en général, je suis toujours transparent, moi, à cette antenne. Je dois dire qu'il y a eu aussi une résonance pour moi dans cet ouvrage, parce que figure-toi, alors peut-être que je te l'apprends, mais je suis né à Marseille. Et en fait, c'est vrai que j'ai retrouvé des lettres de mon père qui montraient les difficultés de l'époque à ce moment-là. Il va être déporté en 1944. Et à travers ce que tu décris de Marseille, eh bien, on s'aperçoit qu'à la fois, effectivement, il y a une vie grouillante, mais en même temps, pour les Juifs, il y a une angoisse terrible.
Bien entendu, c'est la seule porte ouverte.
L'étau se resserre. On est, à ce moment-là, tu le dis bien, la première rafle qui va se passer le 14 mai 1941, l'étau se referme. Et puis après, évidemment, on connaît les grandes rafles qui vont se traduire en zone nord avec, évidemment, la rafle du Veldiv. Mais surtout, cette fameuse rafle du 26 août 1942, où en fait, on est en plein dans le thème, je dirais, de la barbarie à ce moment-là.
Tout à fait. Et les premières rafles ont eu lieu le 1er et 2 août, puisque c'est à partir du 3 août que les déportations commencent. Et il faut savoir que près de 2000 Juifs ont été déportés du camp d'Émile, des femmes, des enfants. Les plus jeunes enfants avaient moins d'un an. Les plus vieux adultes avaient 78 ans. Oui. Toute une population qui a été raflée, les femmes et les enfants dont on a parlé tout à l'heure, qui sont assignés à résidence dans des hôtels borgnes de Marseille, oui. sont envoyés au Mille. À partir du 2 août, le camp est entièrement encerclé, enfermé, la surveillance est renforcée et on commence à envoyer les gens dans les wagons. Quand on est au Mille et qu'on voit cette petite gare au milieu d'un environnement bucolique, et ce wagon qui est le wagon du souvenir, on ne peut que être bouleversé par ce qui s'est passé dans cette terre de Provence.
Bien sûr. Alors, il y a des instants de lumière, évidemment.
Heureusement.
Au cœur de ce marécage, les instants de lumière, on se régale de voir l'attitude d'Auguste Boyer. Il faut lui rendre hommage. Il est né en 1914, il est mort en 1995.
Oui, un lycée porte son nom dans la région.
Magnifique. Et cet homme-là... Et évidemment, je laisse découvrir encore une fois. Mais grâce à lui, en fait, je dirais que c'est l'amour qui va triompher de la mort.
Auguste Boyer est
On est d'accord.
Bien entendu, Auguste Boyer est un personnage formidable qui était simple gardien, mais qui a décidé qu'il ne se laisserait pas faire et qui va par tous les moyens tenter de sauver les enfants. Alors, il va mettre des adolescents sur le toit pendant les déportations. Il va placer les plus petits dans des gaines de chauffage. Oui. Il va descendre des femmes sur son dos pour essayer de les cacher dans des tunnels étroits. Et puis surtout, avec son camion, il va réussir à faire sortir des enfants. Sa femme aussi, parce qu'après, il faut organiser l'exil vers l'Espagne, vers la Suisse, etc. C'est des personnages tout simples qui ont fait ce qu'ils ont estimé juste, des actes justes, et qui, qui redonnent foi dans l'humanité. Et j'étais très heureuse de pouvoir les voir dans mon roman.
Oui, alors, il faut ajouter peut-être une chose, c'est qu'il est, comment dirais-je, touché, c'est le mot « touché », par l'idylle entre Léo et Margot.
Bien sûr, comme vous l'avez répété, c'est un camp uniquement masculin. Une femme arrive et il y a un amour. Et tous les prisonniers, finalement, protègent cet amour parce que ça leur paraît l'expression même de la vie. Oui. Comment on peut tomber amoureux dans un camp? Et c'était ça le propos original qui me tenait à cœur. Une femme française libre et un homme juif étranger détenu. On n'a pas souvent vu une histoire d'amour de ce genre.
Mais parfaitement. Alors, un petit exercice comme ça que j'improvise à l'instant.
Allez.
Tu vas ouvrir le livre à n'importe quelle page. Allez, sans regarder. Voilà, ici. Et je me propose d'en lire quelques extraits parce que, en fait, je dirais que ça va donner le tempo
de
cette écriture. Alors, je la prends comme ça. Alors, je reviens un petit peu en arrière. « Salut, Johann Retzer, se présente un type dans le camion. » Léo Stein. Léo reconnaît chez l'homme, Rabelais, l'accent de Munich. « Tu viens d'où ?» lui demande son compagnon d'infortune. « De Sanary. » »« Ah oui, j'en ai entendu parler. Des bourgeois pleins aux as. Ils m'ont chopé à Toulon. Je travaille sur les chantiers navals, rouge et fier de l'être. Le troisième Reich, ça ne sentait pas bon pour moi. Par contre, Toulon, on s'y amuse bien, et les filles ?» Léo décroche vite, comme là-bas en Espagne, ou il y a plus longtemps encore en Allemagne, dans ce lieu qu'il ne veut pas nommer, il se souvient malgré lui d'une autre arrestation plus brutale, celle-là. Cela paraît si loin, et pourtant si proche dans sa mémoire blessée. « Tu es le juif Stein ?» avait alors éructé un Essa qui ressemblait à leur épicier. « Oui, pour vous servir. » Son impertinence lui avait valu un coup de poing qui lui avait fendu les lèvres. Les nazis avaient le goût du sang et de l'humiliation. Bourrade, violence et injures avaient ponctué son départ en 1933. Il préfère éviter de revenir à cette année-là et se concentre sur la route qui serpente dans les collines mauves et au bleu si divers de la mer qu'il imagine proche, indifférente aux tourments des hommes. Alors moi, ce qui me plaît aussi, c'est qu'en même temps, l'environnement n'est pas oublié. C'est-à-dire qu'il y a une description de la Provence, les lumières, les couleurs, les odeurs.
Bien entendu, qu'ils sont au milieu de cette Provence et qu'ils aimeraient tellement pouvoir être comme ces oiseaux qui volent au-dessus du camp et être libres. Ils sentent le vent, ils sentent le mistral, ils sentent la lavande et ils sont prisonniers. Ils sont et ils seront livrés à l'ennemi. Comme on l'a dit, c'est la trahison totale.
Tout à fait. Alors, il y a une grande nouvelle qui s'annonce, mais vraiment une très grande nouvelle. François Hellebraun, ton époux. Qui, en fait, je crois que le livre, je l'ai sous les yeux, mais il va paraître...
Le 1er février.
Le 1er février. Alors, je donne le titre, déjà, Deux étés 44, Metz, 1744, Drancy, 1944, c'est publié chez Stock. Bien sûr, le rendez-vous est pris et je crois qu'on va se retrouver à la mi-février avec François. J'aurai le plaisir et l'honneur de parler de son ouvrage avec lui. Alors, ma question, au fond, effectivement, c'est un événement dans la famille. Parce que, bon, toi, tu as à ton actif, allez, une dizaine de romans.
Oui, ça.
À peu près.
Voilà, 10 livres, 9 romans.
C'est le premier pour François. Alors, ma question, parce que, bon, on veut être des petites souris pour savoir comment ça fonctionne. Est-ce que, au fond... François, il t'avait mis au courant de son écriture. Est-ce que vous vous êtes nourris l'un de l'autre? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'échange dans vos travaux respectifs?
Alors, je n'ai pas lu au fur et à mesure. Oui. Il m'a dit qu'il avait une histoire à raconter, mais il ne savait pas s'il allait en faire un livre.
Oui.
Il voulait d'abord écrire pour lui-même, comme D'accord. il a toujours voulu le faire, mais toutes ses activités communautaires oui. l'en empêchaient. Et il voulait aussi écrire pour ses enfants. Et donc, il a commencé 10 pages, 20 pages, 30 pages. Et puis, cette envie, finalement, elle a continué.
Oui.
Il s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi je n'irais pas un petit peu plus loin?
Oui.
Quand il a eu 250 pages, il m'a donné à lire et alors là, il raconte et c'est amusant que je lui ai dit « Oui, tu as une histoire, tu as une vraie histoire. Maintenant, tu as 3 ans de boulot devant toi. »
Ah oui, très intéressant.
Parce qu'il fallait vraiment travailler oui. et il a mis effectivement 4 ans pour écrire ce merveilleux roman.
Alors, on va rien déflorer, bien
entendu.
Bien entendu,
c'est un roman historique et voilà. Qui est nourri de tout ce qu'il est, c'est-à-dire la transmission, la mémoire, l'engagement. On commence en 1744 et on arrive à aujourd'hui. En tout cas, c'est une grande fresque et j'ai été très impressionnée à la fois par son écriture et par sa pugnacité
oui.
alors, à continuer
alors,
à écrire.
En même temps, c'est très joli ce que tu dis parce qu'en réalité, quand on écoute François... aussi, je dirais qu'il est aussi ton lecteur.
Bien entendu, on est nos premiers lecteurs, c'est évident.
Voilà.
Et puis, on échange beaucoup. Et puis, oui, on est dans une conversation.
Ouais.
Je ne sais plus qui a écrit que l'amour, c'est une conversation ininterrompue.
Oui,
donc, voilà, on est dans cette conversation-là.
Tout à fait.
Et donc, les idées vont de l'un à l'autre.
Tout à fait.
Et en tout cas, je suis très heureuse et très fière de lui.
Alors, pour revenir un petit peu alors, à ton ouvrage, « Ce pays qu'on appelle vivre ». Je l'ai dit, il y a des personnages de chair, de personnages de sang aussi, hein, de cœur, etc. Ces personnages, ils t'habitent. C'est-à-dire, on le sent très très bien parce que l'écriture, bon, elle est tellement perméable au cœur du lecteur que d'une certaine manière, je dirais que, en fait, tu fais corps avec eux. Alors, ma question, c'est que, en réalité, dans le temps de l'écriture, en réalité, ce sont presque des amis proches autour de toi. Comment?
Et on ne veut pas du tout les laisser partir.
Et on ne peut pas les laisser partir. Ils t'habitent le jour, ils t'habitent la nuit. Je suis sûr que la nuit, tu peux, d'un seul coup, tu as une lueur. Et puis, en fait, tu les vois évoluer.
Et puis, le camp habite. Parce que
voilà.
Le camp abîme le corps,
c'est
les
ça.
Corps abîment les âmes. Et à force d'y aller, à force de prendre des photos, à force d'imaginer
c'est
qu'est-ce
ça.
Qu'on pouvait ressentir. Oui, on est habité par les cauchemars. On se dit, qu'est-ce qu'on
c'est
aurait
ça.
Fait sur... Comment j'aurais pu, moi, lutter? Comment j'aurais résisté? Sur
oui.
quelles ressources internes j'aurais pu m'appuyer pour survivre? Oui, les personnages vous habitent pendant longtemps.
C'est ça.
Le couple du gardien de nos frères aussi.
Oui,
j'ai du
bien
mal à,
sûr.
J'ai
bien,
du mal
bien,
à les laisser
ce beau
partir.
Livre aussi, mais c'est la même chose. Du reste, je disais la même chose quand je t'avais reçu. Parce que,
Simon
en fait,
et Léna.
Bien sûr, bien sûr. Mais alors, ma question. Une fois que le livre s'achève... D'une certaine manière, bon, il y a une séparation qui se fait. Et j'ai presque envie de... Alors, attention, hein, j'y vais avec des pincettes pour le dire. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de deuil?
C'est vrai que parfois, on peut se sentir
voilà.
très triste quand le
voilà.
livre vous échappe, qu'il
Exactement.
N'est plus votre propriété personnelle, mais qu'il arrive vers d'autres personnes. On est à la fois exalté,
oui.
très heureux. Et puis, on se dit, mais il faut que j'écrive la suite.
Oui.
Je ne vais plus être avec eux tous les matins.
Mais voilà.
Je vais me sentir mal. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir,
oui.
etc. Donc, à chaque fois, je me pose la question du deuxième tome. Et puis, je passe à une
oui.
autre histoire.
Oui, mais il y a quelque chose, d'extraordinaire. C'est que même s'il y a cette séparation avec ce travail de deuil, bon, je dis ça avec des pincettes, il n'empêche que ces personnages vont revivre parce que tu vas au-devant aussi du public pour t'expliquer avec l'ouvrage. Donc, à chaque fois, les questionnements et ce que tu vas raconter à ce moment-là, les faire revivre.
Avec des publics très différents, puisque je vais dans les collèges, dans les lycées, donc ça c'est très important. Je suis invitée un lycée d'Aix-en-Provence, à Marseille également. Donc c'est un devoir de mémoire que l'on a tous, mais c'est aussi une façon de montrer que l'histoire, ça peut être... quotidien, au présent, que ce couple-là aurait pu être eux, que finalement, il n'y a pas d'opposition entre ce qui s'est passé avant et maintenant. Je crois que le grand engagement et la grande leçon du camp d'Émile, c'est que la démocratie est fragile et que tout peut basculer d'un moment à l'autre.
Il faut rendre hommage aussi à Alain Chouraki, le président du camp d'Émile. Ils font tout ce qu'ils peuvent au camp d'Émile pour, en fait, ouvrir la mémoire aux citoyens, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une conscience citoyenne.
Tout à fait, et ils travaillent sur tous les autres génocides, et ils montrent que même si la Shoah est unique et absolument unique, il y a des processus génocidaires, et on ouvre sur d'autres meurtres de masse, et sur le courage, et sur les actes justes. Oui. Et à une époque de fake news, de désinformation, de choses comme ça, on a vraiment besoin...
Et puis, il faut le dire, au moment encore où souffle le vent mauvais de l'antisémitisme...
Et du révisionnisme,
bien sûr, absolument.
Le camp d'Émile montre qu'il y a eu, parmi l'horreur, des actes justes et que certains hommes se sont levés contre la barbarie.
Alors, Ariane, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais simplement que tu me dises, parce que tu as déjà été à la rencontre du public, effectivement, on l'a dit... à Aix-en-Provence,
J'y retourne le 26.
Et tu vas y retourner. Quel écho ? Qu'est-ce que tu observes quand précisément tu vas présenter cet ouvrage ? Quel accueil, quel écho ça ?
Beaucoup d'intérêt de la part du public. Bon, à Aix-en-Provence, on connaît l'existence du camp d'Émile, mais je suis très étonnée parce que, par exemple, dans l'équipe éditoriale, des gens sont nés dans le Sud et ont vécu dans le Sud et ne connaissent pas cette histoire.
Ça, alors,
le camp a été ouvert au public en tant que site mémorial.
Mais en 2012, c'est ça.
En 2012, il y a 10 ans, on a juste fêté son anniversaire au mois de décembre, mais le camp reste encore méconnu. Et donc, si un roman, c'est une petite pierre, et si cela permet de mieux le faire connaître, j'en suis ravie.
Tout à fait. En tous les cas, du fond du cœur, je te dis Razak, comme on dit. Et je rappelle le titre pour les amis qui nous écoutent, Ce pays qu'on appelle vivre. Et alors, on marque Rentrée littéraire, Plomb, c'est la maison...
Rentrée littéraire de janvier.
Oui. Ah, de janvier. Mais c'est évidemment les éditions Plomb. Et en tous les cas, merci encore.
Merci Claude
et puis,
pour
chers
cette
amis,
formidable émission.
À mercredi
émission.
Prochain.
Mémoire et vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.